Ils sont chercheurs, roboticiens, ingénieurs, philosophes et ils pensent que dans moins de 30 ans, les machines deviendront totalement autonomes au point de dépasser l'intelligence humaine. Machines qui pourraient donc potentiellement devenir incontrôlables. Ce point de basculement, c'est le concept de singularité technologique. Alors sommes-nous réellement à la veille d'un remplacement de l'homme par des intelligences artificielles ou a-t-on affaire à des prophéties totalement délirantes? Eh bien c'est le sujet de notre dossier dans un instant avec deux spécialistes des relations hommes machine et j'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, un lien entre la taille de notre cerveau très volumineux et notre consommation de fruits.
Oui, et pour comprendre ce lien, il faut remonter le temps et la lignée des primates. Nos premiers ancêtres mangeurs de fruits nous ont sûrement légué aussi un cerveau de plus en plus développé. On en discute dans tous les cas avec la primatologue Sabrina Krief.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy, Stéphanie Texier. Réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les intelligences artificielles sont-elles donc sur le point de remplacer les hommes? Question posée dans notre dossier avec mes invités, les professeurs Laurence De Villers et Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-Gabriel Ganassia, 2045, l'humanité pourrait basculer dans la singularité technologique. À quoi faut-il se préparer exactement alors?
Bon, écoutez, c'est une fable ancienne, puisqu'elle naît avec les premiers ordinateurs. Des mathématiciens à l'époque se disaient, si ces machines deviennent ultra intelligentes, qu'elles sont plus rapides que notre cerveau, elles vont prendre le pouvoir. Et puis, ça a donné naissance à tout un tas de romans de science-fiction passionnants. Werner Winch, par exemple, dans les années 90. Alors à l'époque, ils plaçaient ça, par leur calcul, vers 2023. Mmh. Et puis là, des scientifiques ont repris la science-fiction.
C'est
et
ça,
il ouais. la cautionne, c'est ça qui est tout à fait étonnant et c'est de ça dont je voulais parler.
Et on a basculé donc dans la science depuis. Laurence De Villers, vous y croyez, vous, au ravage de l'intelligence artificielle et à ce scénario apocalyptique?
Non, pourquoi croire en fait à ce mythe de la singularité, c'est le titre du livre de Jean-Gabriel. Pourquoi penser que les machines seront supérieures à l'homme? Elles vont simplement devenir de plus en plus intelligentes, et ça va amplifier en fait notre propre intelligence. Mmh. Et fondamentalement, je pense que l'ordinateur est très différent de l'homme. Ils sont deux opposés intégraux sur beaucoup de points de vue. L'homme est lent, l'ordinateur est rapide, l'homme est intuitif et l'ordinateur ne l'est pas. Maintenant, il y a des vrais dangers, autres sûrement que la prophétie de la singularité. Et notamment, ma voisine disait le travail en état.
Voilà, c'est votre voisine, c'était Laetitia Gaillet en l'occurrence. Allez, on se retrouve dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. La consommation de fruits est-elle la clé pour comprendre l'évolution de la taille du cerveau des primates? Depuis longtemps, en tout cas, les biologistes de l'évolution tentent d'expliquer pourquoi certains primates ont acquis au fil du temps un cerveau plus développé, comme c'est le cas des hommes et des grands singes. Et une étude publiée cette semaine dans la revue Nature suggère que l'apparition des régimes à base de fruits est fortement corrélée avec l'augmentation de la taille du cerveau. Bonjour Sabrina Krief.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes vétérinaire, primatologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous connaissez très bien les grands singes et les chimpanzés en particulier, puisque vous êtes régulièrement sur le terrain en Ouganda pour les observer. Alors Sabrina Krief, cette question de la taille du cerveau des primates semble agiter les chercheurs depuis maintenant un moment. Quelles sont les différentes hypothèses qui tentent de l'expliquer?
Alors en fait, il y a deux hypothèses principales. La première qui a été défendue par Dunbar est que la principale pression de sélection qui s'opère sur l'accroissement du cerveau et donc plus particulièrement sur cette partie qui est le néocortex, qui est celle qui est responsable de l'intelligence ou des capacités cognitives, serait en fait la complexité du groupe social. Donc plus le groupe social serait de grande taille et aurait donc de nombreuses interactions en son sein, plus ça favoriserait les individus qui sont porteurs d'un gros cerveau. Ça, en fait, ce serait un avantage d'avoir un gros cerveau pour mieux anticiper les réactions de ses congénères.
Donc ça, c'est la première hypothèse.
Ouais. Voilà. L'autre hypothèse est celle d'une intelligence plutôt écologique, et donc qui a été défendue par Clutton-Brock ou Milton, et qui tend à montrer qu'une meilleure survie pour les primates serait associée donc à la consommation de ressources rares et riches en énergie que sont les fruits.
Alors, la balance semble pencher là avec cette publication vers la consommation de fruits. Comment ont fait ces chercheurs pour arriver à cette conclusion alors ?
Alors pour cette étude, en fait, les chercheurs ont analysé les données correspondant à 140 espèces de primates, donc ça c'est nouveau, et ils ont compilé à la fois des données alimentaires et des données sociales. Donc jusqu'à présent, en général, les auteurs traitaient les deux questions assez séparément, et là ce qui est vraiment nouveau, c'est que dans ce modèle statistique, ils ont injecté donc des données très larges sur 140 espèces de primates, donc concernant les deux hypothèses. Et en testant à la fois cette complexité sociale par le biais de la taille du groupe social et par le système de reproduction et le système social et par le pourcentage de frugivorie ou les catégories d'aliments qui sont consommés. Alors, et donc leur résultat semble effectivement favoriser l'hypothèse de l'intelligence écologique portée par donc la consommation de fruits.
Mais comment on l'explique, en quoi le fait de changer de régime alimentaire pourrait aboutir au fil du temps à avoir un plus gros cerveau ?
Alors en fait pour les individus, les animaux qui consommeraient donc des fruits, cette consommation de fruits aurait un avantage sélectif en fait, qui permettrait d'avoir une meilleure énergie et aussi de consolider les connaissances, puisqu'en fait les fruits sont des ressources qui sont dispersées, qui sont moins disponibles, moins prévisibles dans le temps et dans l'espace. Hein. Il faut que les primates se déplacent sur des longues distances pour trouver ces ressources. Il faut à la fois qu'ils connaissent les espèces qui sont synchrones, donc dans certains moments ça va être la saison, alors pour nous par exemple des pommes, mais en milieu naturel c'est un peu la même chose. Et il y a aussi d'autres espèces qui ne sont pas synchrones. Donc tout ça est très compliqué et par conséquent un individu qui aurait donc un gros cerveau et qui comprendrait mieux et qui se rappellerait mieux de ces endroits serait favorisé. Et donc c'est en fait une pression de sélection qui s'exerce sur les individus les plus performants, les plus efficaces.
Et alors justement Sabrina Krief, le régime alimentaire des grands singes en particulier, est-ce qu'il est basé sur la consommation de fruits majoritairement ?
Alors en fait, chez les grands singes, on a différents types de régimes alimentaires. On a donc à la fois des gorilles de l'ouest et des gorilles de l'est qui ont un régime alimentaire qui est relativement flexible, mais souvent basé sur des tiges et des feuilles pour les gorilles de montagne et sur les fruits plus pour les gorilles de l'ouest. Mais dès que cette ressource est moins disponible en saison de disette, hop, leur régime alimentaire bascule vers un régime plutôt à base de feuilles et de tiges, alors que les chimpanzés et les orangs-outans, un régime alimentaire plutôt tourné vers les fruits. Mais là encore, pour les orangs-outans, il y a très souvent des périodes de disette alimentaire et à ce moment-là, ils basculent vers un régime à base d'écorce, etc., moins nutritif. Donc ceux qui ont le régime alimentaire le plus riche en fruits, ce sont les chimpanzés et les bonobos. Il y a aussi un autre aspect important, c'est que souvent associé à la consommation de fruits, il y a une tâche complexe à effectuer pour accéder à certains de ces fruits, comme par exemple la nécessité de casser des noix et donc d'aller extraire des ressources qui sont difficilement accessibles et donc parfois l'utilisation d'outils.
Ça voudrait dire que l'outil serait apparu aussi à cause de la consommation de fruits ou grâce à la consommation de fruits ?
En tout cas, c'est un facteur qui favorise la recherche de ces fruits, en fait, parce que certaines de ces ressources, comme par exemple les lipides, sont très peu accessibles en milieu sauvage, et souvent elles sont incluses dans les noyaux ou dans les graines du fruit. Donc, pour accéder à ces ressources, comme par exemple pour accéder à certains insectes, etc., il faut faire preuve de à la fois perspicacité pour les trouver, et puis aussi de capacité de manipulation. Et ça interagit aussi avec le néocortex et donc cette intelligence pour se procurer ces ressources difficilement accessibles.
Mais vous, Sabrina Krief, sur le terrain, lorsque vous êtes en Afrique, est-ce que vous observez des différences de comportement entre les singes plus mangeurs de fruits ou plus mangeurs de feuilles ?
Bah, en fait, donc nous en Ouganda, dans le parc de Kibale, on a 12 espèces de primates qui coexistent, qui cohabitent. Et en plus donc de cette nécessité de trouver les fruits, ce pose aussi la question de la compétition donc entre les espèces de primates. Donc il va falloir aussi être le premier à arriver pour pouvoir consommer les meilleurs fruits au meilleur moment, mais aussi avec les autres espèces animales que sont par exemple les oiseaux. Et avoir un gros cerveau, c'est aussi très important aujourd'hui, on s'en rend compte probablement pour les primates, pour s'adapter à des modifications rapides de leur environnement. Et nous, ce qu'on a vu par exemple en Ouganda, c'est que l'anthropisation du milieu et donc le fait d'avoir dans leur environnement une route qui traverse ou bien la proximité de ressources nouvelles plantées par les agriculteurs, ont fait que les chimpanzés sont aujourd'hui capables non seulement de traverser cette route et d'avoir des stratégies sociales cette fois-ci pour traverser la route, mais aussi, par exemple, d'aller piller les ressources en modifiant leur comportement, en devenant nocturnes, pour aller piller le maïs des fermiers voisins.
Dans l'histoire de la lignée des primates, les modifications de la taille du cerveau comme ça, ça se joue sur quel type d'échelle de temps ?
C'est pas une échelle rapide, donc évidemment c'est pas aujourd'hui en augmentant forcément notre consommation de fruits au quotidien qu'on peut voir des effets rapides sur la consommation du cerveau.
Dommage.
Même si en termes de santé au niveau individuel c'est important. Et puis faut savoir aussi que dans l'histoire des premiers humains, il y a aussi donc l'apparition de la viande, mais aussi celle de la cuisson des aliments.
C'est ça.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, puisque ça a permis d'avoir encore plus accès à de l'énergie qui n'était pas forcément disponible, et aussi d'éliminer une partie des molécules qui sont néfastes à la digestion, que sont les métabolites secondaires des plantes. Voilà, donc il y a un faisceau de choses qui laisse à penser que, bon, certes, la consommation de fruits est importante au niveau évolutif, mais qu'il ne faut pas oublier que souvent, ça interagit quand même avec les relations sociales, et que dans l'histoire humaine, il y a d'autres facteurs qui interviennent.
Et qui expliquent la singularité aussi du cerveau humain par rapport aux autres grands singes. Merci beaucoup, Sabrina Krief, pour vos explications, cet éclairage, donc à l'occasion de la parution de cette étude publiée dans Nature sur le lien donc entre cerveau volumineux et fruits. Mais vous pouvez continuer à manger des fruits.
Ah bah oui.
Axel. Allez, à demain. Merci à beaucoup. Demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des archéologues qui ont découvert le Jurassic Park australien. Dans l'ouest du pays, des milliers d'empreintes ont été découvertes le long d'une plage sur une distance de 25 km. Pas moins de 21 types d'empreintes différentes ont été identifiées. C'est la première fois qu'on observe une si grande diversité de traces de dinosaures dans une zone aussi petite. Elles présentent aussi bien des dinosaures prédateurs que des sauropodes ou des dinosaures à armure. Les empreintes étaient incrustées dans des roches datées d'il y a 140 millions d'années. Les dinosaures qui ont laissé ces empreintes ont donc vécu au Crétacé inférieur. Toujours en Australie, le tigre de Tasmanie a-t-il ressuscité ? C'est ce que laissent penser les témoignages de plusieurs personnes vivantes en Australie. Elles auraient aperçu des animaux dont la description fait penser très fortement à ce mammifère qui s'apparente à un chien au dos rayé. Le dernier individu est mort en Tasmanie en 1936, mais les scientifiques estiment qu'il avait déjà disparu du continent australien il y a 2000 ans, face à la concurrence des dingos. C'est ce qui rend la nouvelle d'autant plus étonnante puisque les témoignages se concentrent dans le Queensland, au nord-est du pays. Des recherches vont donc être lancées afin de confirmer ou infirmer la survie de cette espèce. Et puis observer les stades précoces du développement de l'embryon humain en 3D, c'est désormais possible. Et c'est une équipe française qui a réalisé la prouesse pour la première fois grâce à une combinaison de plusieurs techniques d'imagerie. Système nerveux, muscles, poumons, c'est tout l'embryon qui a été passé au peigne fin entre sa 6e et 14e semaine. Et première découverte, la disposition des nerfs se fait de manière différente entre la main droite et la main gauche. Plus largement, ce nouveau dispositif devrait permettre d'observer la vitesse à laquelle se propagent les cellules dans les organes en construction. Et vous pouvez voir cette vidéo très étonnante donc, de l'embryon humain sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, l'intelligence artificielle, c'est notre dossier dans un instant, juste après Agar Agar. I couldn't wait to dance on.
Pensez comme un être humain.
La plupart des gens disent que non.
Vous n'êtes pas la plupart des gens.
Le problème, c'est que vous tournez la question d'une manière stupide. Il est évident qu'une machine ne peut penser comme un être humain. Une machine est différente d'une personne, et donc pense différemment. La véritable question, c'est est-ce qu'on doit, sous prétexte que quelque chose pense différemment de nous, en conclure d'office qu'il ne pense pas ?
Voilà l'illustration de notre sujet avec un extrait du film Imitation Game sorti en 2014 pour bien justement essayer de comprendre si nous sommes à la veille de bouleversements majeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, au point peut-être de voir un jour les machines remplacer les hommes. Question posée donc cet après-midi avec vous Laurence de Villers et Jean-Gabriel Ganassia. Laurence de Villers, vous êtes professeure à l'université Paris-Sorbonne, chercheuse en interaction humain-machine au LIMSI CNRS, et vous publiez Des robots et des hommes, les mythes, les fantasmes et les réalité aux éditions Plomb. Et Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes chercheur en intelligence artificielle au laboratoire informatique à Paris 6 et vous êtes professeur à Pierre et Marie Curie. Vous êtes président du comité d'éthique du CNRS et votre ouvrage, Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle, est paru au Seuil avec les questions des auditeurs qui arrivent déjà sur franceinter.fr. Alors il y a des questions, il y a des affirmations, il y a cette phrase de Joël de Ronet que nous rappelle Sam sur le site de l'émission. Il nous dit ceci: j'ai moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Jean-Gabriel Ganassia, c'est une façon de relativiser d'emblée les choses, non ?
Oui, d'une part de relativiser d'emblée les choses, mais aussi de montrer que l'intelligence artificielle peut être instrumentalisée par un certain nombre de gens. Et donc, effectivement, les vieux démons de l'humanité peuvent l'emporter sur la technologie.
Laurence de Villers, les fantasmes, alors les mythes et les fantasmes, ils sont nombreux, hein, et depuis longtemps d'ailleurs, hein.
Oui, depuis très longtemps en fait. On remonte au mythe de Frankenstein, Pygmalion, le golem. On va trouver des mythes même dans l'Antiquité. Hein. Pygmalion, c'est dans l'Antiquité. Où on a envie de créer une réplique de l'humain, lui donner vie et tout ça. Et la crainte suprême de remplacer Dieu. Hein. Donc derrière, il y a des fantasmes énormes.
Hein. Ouais, donc les mêmes questions se sont toujours posées autour, au fond, des machines.
Hein. Oui, oui.
Jean-Gabriel Ganassia.
Tout à fait, hein, dans l'inquiétude que nous pouvons avoir face au développement de l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui est profondément enraciné dans le cœur de l'homme. Hein, c'est très ancien, hein, donc c'est pas. Au fond, on peut dire que le robot existait bien avant que le mot robot existe, et a fortiori bien avant que les premiers robots soient inventés. Hein, comme le rappelle Laurence, hein, on en trouve des traces chez Homère, par exemple, hein, avec des servantes en or, et puis ensuite on retrouve dans toute l'histoire de l'humanité, à la fois la volonté de créer des machines autonomes qui seraient un peu des doubles de nous-mêmes, et puis en même temps la crainte, la dualité.
Hein,
le golem, d'ailleurs, il y a cette magnifique exposition du golem à Paris aujourd'hui, et il montre bien cette dualité, c'est-à-dire qu'à la fois il faut une grande force spirituelle, une grande érudition, de grandes connaissances pour fabriquer un golem ou un robot, hein, et en même temps, bien sûr, ce golem peut se retourner contre l'homme. À quel cas, il faut une force morale encore plus grande pour avoir le courage de détruire sa propre œuvre au moment où elle commence à nous dépasser.
Alors il y a Caroline sur franceinter.fr qui se pose d'abord une question de méthode pour étudier justement et répondre à cette question. Comment peut-on savoir que l'intelligence artificielle sera plus performante que l'être humain? Comment est-ce que ça se mesure, Laurence Duvillers, alors?
L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très très vaste déjà. Donc c'est compliqué d'en parler en énonçant pas exactement le sujet.
C'est très vaste
qui
et c'est très concret hein, aussi dans notre quotidien déjà.
Oui. Donc nous en recherche, en fait, on utilise l'intelligence artificielle pour de grandes tâches différentes comme la reconnaissance de la parole, la traduction automatique, la prédiction d'émotions dans un contexte. Donc on a énormément de différents sujets pour lesquels on va chercher toujours à mesurer la performance grâce à des tests que on fait à répétition sur les systèmes. Le vrai enjeu, je trouve, à l'heure actuelle, ce sont ces machines qui peuvent apprendre de leur environnement, qu'on essaie de créer, nous les chercheurs et les industriels, et qui vont apprendre en continu, et comment on vérifiera les connaissances de ces machines, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler fortement.
C'est-à-dire que les machines sont en train de dépasser l'homme, là justement, sur les capacités d'évaluation ou pas ?
Pas du tout. En fait, il faut penser qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas faire une machine très complexe. Hein. C'est pas l'intelligence générale dont on parle, dont Jean-Gabriel parle d'ailleurs dans son livre. C'est plutôt une intelligence spécifique. C'est-à-dire sur certaines tâches, hein, j'ai bien redit, sur la reconnaissance de la parole, la reconnaissance d'image, sur un certain nombre de tâches, on peut être très bon. Et voire meilleur que l'humain. Mais c'est facile, hein. Votre oreille, par exemple, eh bien, elle a un spectre de fréquences qu'elle entend. Hein, donc elle n'entendra pas ni les ultrasons ni les infrasons, une machine pourrait le faire. Donc ce qu'on a vu à travers AlphaGo et le fait que la machine gagne contre l'humain, c'est tout simplement que ce sont des capacités de calcul, de recherche dans des espaces énormes. Moi j'avais discuté avec un joueur de Go qui avait entraîné cette machine chez donc Google DeepMind et qui me disait, moi j'arrive à prévoir 50 coups à l'avance, ce qui était déjà énorme. Or la machine en était à plus de 60 avec un spectre très large au départ. Donc cette complexité de chemin n'était pas accessible à l'humain. Après, l'humain, regardant les traces de la machine, apprend aussi et devient meilleur.
C'est ça. Donc c'est une bataille permanente.
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que la machine a des capacités que nous n'avons pas. Et je joue vraiment, enfin je pense qu'il faut jouer sur la complémentarité entre les deux pour en tirer le meilleur.
Bon, Jean-Gabriel Ganassé, il n'y a pas de compétition entre homme et machine pour voir qui arrivera au bout. C'est quand même ce qu'on essaie de voir dans cet exemple du jeu de Go précisément. Qui allait gagner, de la machine ou de l'homme?
Bien sûr qu'il y a des défis, mais ce n'est pas de la compétition. On essaye de faire des machines spécifiques, mais je crois que pour bien clarifier les choses, il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Et donc, elle va chercher à imiter les différentes facultés cognitives humaines. Ça peut être la perception, la vision, hein, la reconnaissance de la parole. Ça peut être aussi le jeu, la démonstration automatique. Et chaque fois, on se donne des épreuves pour aller plus loin. Alors à la fois, pour avoir des performances qui soient meilleures que celles des hommes, c'est ce qu'on fait, par exemple, lorsqu'on fait une machine qui joue au Go. Mais ça fait longtemps que les machines nous dépassent. Depuis très longtemps, les machines calculent plus vite que les hommes. Et ça ne choque absolument personne. Et puis, ça peut être aussi pour mieux comprendre ce que font les hommes, c'est-à-dire par confrontation, pas par rivalité, par confrontation hein, de ce que les hommes font avec ce que les machines font, on comprend mieux quels sont les mécanismes à l'œuvre dans notre propre connaissance. Et donc c'est passionnant, c'est à l'origine de disciplines scientifiques nouvelles, ce qu'on appelle les sciences cognitives, c'est les sciences qui étudient la cognition avec les systèmes de traitement de l'information, c'est-à-dire avec les ordinateurs. Ça fait faire beaucoup de progrès.
Alors justement, la confrontation entre la machine et l'homme au moment du jeu de Go, mars 2016, on retrouve un extrait des infos.
Coup de théâtre à Séoul, une intelligence artificielle a terrassé le meilleur joueur du monde au bout de 4 heures d'une partie sous tension diffusée en direct par les télévisions japonaises, chinoises et coréennes. Réaction d'après-match du commentateur américain de jeux de Go, Chris Garlock.
C'est un moment absolument historique. Ce que j'ai trouvé incroyablement émouvant, et c'est le plus bel hommage à ce logiciel, c'est qu'au milieu de la partie, nous avons oublié que c'était une machine. Et nous avons commencé à parler de lui comme si c'était un être humain. Sans exagérer, j'ai senti la présence d'une intelligence stupéfiante.
Le match n'est pas fini, il se déroule en 5 manches et le champion sud-coréen Lee Sedol a encore toutes ses chances, mais il a reconnu que son adversaire était beaucoup plus fort que prévu.
Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que l'intelligence artificielle joue de façon aussi parfaite. Au milieu du jeu, AlphaGo a commencé à placer ses pions sur des positions très inattendues. Il a fait des coups qu'aucun humain ne ferait.
Voilà, Laurence Villers. Donc c'était il y a un an tout juste. Est-ce qu'on peut dire qu'à cette date, finalement, on a quand même basculé dans une nouvelle ère des relations homme-machine ?
Je ne crois pas qu'il y ait eu un basculement. Il y a eu un étonnement de la part des gens qui connaissent pas. Et moi, je me bats pour que, justement, on explique beaucoup, en fait, ce que c'est que l'intelligence artificielle, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on sait faire actuellement pour qu'il n'y ait pas ce bluff. Donc là, je dirais que l'humain qui parle de génie derrière la machine, c'est quelqu'un qui projette des intentions sur la machine. Elle n'est pas géniale, cette machine. Elle ne ressent pas, d'ailleurs, aucune émotion d'avoir gagné ou pas. Elle n'a pas de conscience de ce qu'elle fait. Elle est vraiment sur du calcul pur. C'est très différent. Il y a des intelligences. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est tous d'accord pour dire que l'intelligence, ce n'est pas seulement du calcul. Et il y a énormément de facteurs autres. Et moi, je travaille par exemple sur les sciences affectives, donc essayer de mettre des émotions dans les machines ou que les machines puissent détecter les émotions des humains.
On y arrive aujourd'hui ou pas ?
On y arrive très mal et de toute façon, on va, pour l'instant, on simplifie énormément le sujet. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est utile ? Dans quel cadre ça peut être utilisé ? Et c'est principalement ça qu'il faut comprendre.
Justement, ça pourrait servir à quoi, alors, de donner des émotions à des machines ?
Alors, c'est plusieurs choses. Il y a 3 grands sujets dans l'affective computing, qui est né au MIT en 97. C'est en fait le fait de détecter les émotions des humains, que ce soit dans la voix, le comportement expressif, ce qui ne veut pas dire comprendre leurs émotions. C'est-à-dire qu'on détecte ce qu'ils expriment. Ensuite, c'est que la machine puisse finalement raisonner à partir de ces informations, plus à partir de ce qu'elle a compris du langage, et puis qu'elle imite, si besoin, par exemple, faire de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui souffre, être à l'écoute de quelqu'un qui est en détresse. Donc on le voit comme étant très utile dans certains cas d'assistance aux personnes âgées, par exemple, ou d'assistance dans certaines pathologies comme l'autisme.
Alors, Jean-Gabriel Ganassia, ces machines, elles sont moins sophistiquées au fond qu'on voudrait bien le dire ?
Elles sont très sophistiquées parce qu'elles sont capables de faire énormément de choses. C'est impressionnant. Par exemple, vous avez des machines qui font de la reconnaissance de visage avec des performances étonnantes. Elles sont entraînées sur 200 millions d'images. Alors, il y a plusieurs images par personne, mais vous êtes capable, avec ces machines, de reconnaître entre plusieurs millions de visages avec un taux de reconnaissance de 99,63%. Donc, on dépasse des facultés humaines. Mais ça ne veut pas dire qu'on dépasse tout, parce que l'intelligence, c'est quelque chose de multiple, c'est un ensemble de fonctions. Et justement, ça nous permet de mieux comprendre l'intelligence. Alors, quand on parlait tout à l'heure d'intelligence émotive, ça ne veut pas dire qu'on donne des émotions à une machine, c'est qu'on joue sur autre chose. C'est cette capacité que l'on a de projeter sur des objets, des êtres. On appelle ça, en termes techniques, des agents intelligents. C'est-à-dire qu'on va projeter au-dessus d'un robot, qui est un ensemble de dispositifs matériels, on va projeter une entité. C'est une forme d'animisme. Et justement, ça rend énormément de services dans la vie de tous les jours, dans l'interaction avec les machines. Et c'est là, bien sûr, où ces dimensions émotives prennent une force très importante, parce que le langage des émotions est beaucoup plus rapide que le langage articulé. Et donc, on peut, comme ça, communiquer plus facilement avec les machines.
Petite parenthèse historique, qu'est-ce qui s'est passé en 1955, alors exactement, déclaré date officielle de l'apparition de l'intelligence artificielle, c'est ça ?
Tout à fait. Deux jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque, John McCarthy, qui était un mathématicien, et puis son collègue, qui avait le même âge que lui, Marvin Minsky, qui était aussi mathématicien, qui avait fait une thèse sur les réseaux de neurones formels, sur l'apprentissage machine, donc décide de créer une nouvelle discipline qu'ils appellent intelligence artificielle, et qui a effectivement cet objectif d'étudier l'intelligence avec ces nouveaux dispositifs. Mais l'idée d'intelligence artificielle était un tout petit peu antérieure, c'est une idée ancienne, on la retrouve chez Leibniz, puis ensuite on la retrouve avec les premiers ordinateurs chez Alan Turing, et puis dans la cybernétique, etc.
Ouais. Alors justement, cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle a augmenté, décuplé au fil des décennies, avec la loi de Moore par exemple, Laurence de Villers, qu'est-ce que ça nous disait au fond cette loi sur la capacité des machines ?
Alors c'est une loi qui est en fait la juxtaposition de constatations, hein. C'est pas vraiment une loi théorique mathématique. C'est le fait qu'on a constaté que les processeurs augmentaient en capacité tous les 18 mois et que effectivement les machines qu'on arrivait à construire étaient d'autant plus dotées de capacités de calcul qu'elles arrivaient à mieux comprendre un grand nombre de formes et mieux créer un modèle complexe, hein. Donc je crois que ça, d'ailleurs cette courbe sur la loi de Moore est en train de stagner.
Alors c'est ça, oui, ça fait peu de temps d'ailleurs, hein. Ça a été très commenté.
Très proche. Et pour vous dire, moi j'ai commencé ma thèse sur les réseaux de neurones par exemple, je faisais tourner des systèmes à base d'apprentissage pendant des mois. Donc à l'heure actuelle, avec la puissance de calcul qu'on a, en une journée, on peut créer un modèle d'apprentissage intéressant sur, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Gabriel, un grand nombre d'images pour reconnaître un visage.
Ouais.
Et ceci dit, malgré le fait que la machine va être supérieure à l'homme globalement, elle n'apprend pas du tout comme lui. Donc il faut faire attention, quoi. On peut pas dire que la machine est meilleure que l'homme, elle est très différente dans son apprentissage.
Donc l'intelligence humaine reste très singulière par rapport à l'intelligence de la machine, hein.
Je crois quand même que dans les termes, il y a des précautions à prendre. Lorsqu'on dit que l'augmentation de l'intelligence artificielle est patente, qu'elle est liée à l'augmentation de la puissance de calcul des machines, il y a peut-être une confusion. Nous faisons plus de choses aujourd'hui, d'abord parce que nous avons des méthodes qui se sont développées, nous avons plus de connaissances, et puis, effectivement, hein, il y a la puissance de calcul des machines. Donc il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et ça a, bien sûr, des effets énormes, hein, sur la vie quotidienne. Mais ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle se mesure comme le QI. Hein, et donc, il y a, bien sûr, des plateaux. Il y a des choses dont on sait qu'on ne sait pas encore les faire. Et on n'est pas du tout certain qu'on saura les faire un jour. Ouais. En particulier, il y a une chose, quand on parle d'apprentissage, nous sommes capables d'inventer des notions nouvelles. Et ça, c'est extrêmement difficile de le faire à une machine. Aujourd'hui, on a des professeurs qui enseignent aux machines, et s'il n'y a pas de professeurs, elles sont un peu perdues.
Ouais.
Elles n'ont pas de désir, en gros, ouais, d'apprendre.
Et cette loi, alors justement, avec le doublement des capacités des machines, en gros, pour résumer, on est vraiment à un seuil aujourd'hui, ou pas ?
Disons que on pense qu'on va arriver à un plateau. Alors, c'est un peu relatif, parce qu'en même temps, comme on devrait mettre en parallèle un certain nombre de processeurs, il se peut quand même qu'on ait un accroissement continu jusqu'à, à un moment donné, un certain seuil. Sauf s'il y a de nouveaux paradigmes qui vont être introduits avec de nouveaux matériaux, ou avec ce qu'on appelle le calcul quantique, mais on n'en sait rien pour l'instant. Or, vous savez bien que les changements de paradigme, ce sont des choses qui, par essence, dans la technologie comme dans la science, sont imprévisibles. Donc, on pense qu'on va arriver certainement à un ralentissement de ses capacités, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire quand même, hein, avec les technologies actuelles.
Allez, faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Et puis on va parler de ce mythe de la singularité, Jean-Gabriel Ganassia, dans un instant, avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
Words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. Words of skill and words of romance are a lure. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Ransom, samba, ransom, samba. Kuni, 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 ransom, samba. Aka, ya, yupi, aka, ya, ya. Hoo, ah, hoo, ah, niki, chi.
can make you pay and pay for letter words I cannot say. Words are trouble, words are subtle, words of anger, words of hate, words over here,
right down there,
in the air and everywhere. Words of wisdom, words of strife, words that write the book I like.
Words won't find the right solution to the planet Earth's pollution.
Say the right word, make a million.
Words are like a certain person who can't say what they mean, don't mean what they say. Common good, let us enlist the neighborhood.
It's okay, I've overstood. This is a wordy rapping hood. Okay, bye.
Supposons que les ordinateurs soient développés au point qu'un jour ils deviennent intelligents, peut-être plus intelligents que l'être humain. Un ordinateur vraiment intelligent, plus intelligent que l'être humain, est à mon avis supérieur à l'être humain et doit contrôler plus étroitement l'univers. Je ne vois là rien de criminel. Au cours des 3 milliards d'années, ou plus, qu'a duré l'évolution de la Terre, les organismes plus efficaces ont toujours remplacé les organismes moins adaptés. Nous ne nous indignons pas du fait que les mammifères ont hérité de la Terre à la mort des reptiles géants. Et nous tombons d'accord que le primate Homo sapiens est sans doute le plus prospère des mammifères. Alors, si nous l'admettons, il est juste que des espèces encore plus perfectionnées nous remplacent. Or, être plus perfectionné que l'homme, c'est être plus intelligent que lui. Ces espèces plus intelligentes auraient été créées par l'homme. Alors bravo, autant à notre crédit.
Voilà les prévisions d'Isaac Asimov en 1974 dans Les Incroyables Prédictions sur le futur pour parler de l'intelligence artificielle avec Laurence de Villers qui signe Les Robots et les Hommes aux éditions Plon et puis Jean-Gabriel Ganassia, Le Mythe de la Singularité. Laurence de Villers, Isaac Asimov, donc le grand maître américain hein, en matière de science-fiction. Et vous dites justement dans votre ouvrage que ces conceptions de la robotique sont toujours très actuelles. Hein.
Oui, il n'y a pas beaucoup de lois qui ont été autant reprises en fait hein, par les chercheurs ou les industriels. Donc on a besoin d'ailleurs de mettre des réglementations à ces machines. Hein. C'était un peu l'objectif aussi de mon écrit. Je voudrais revenir sur Asimov qui dit beaucoup de choses. Il dit aussi il faut garder la foi en notre vieux cerveau d'homme.
Ouais, hein. Ouais, ouais.
Notre plus grande richesse, c'est notre génie créateur. Et la machine, elle, n'a pas ce génie créateur. Donc il y a effectivement une... L'intelligence humaine, hein, il faut le répéter, elle est multiple et on a cette adaptation à toute chose qui est évidente que la machine n'a pas. Hein, elle n'a pas de désir, la machine.
Ouais.
Donc cette propension à pouvoir créer comme ça, c'est lié effectivement à notre conscience aussi.
Alors Marc dit, ce qui est fait par l'homme sera défait par lui. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil de l'homme et non pas l'inverse. Jean-Gabriel Ganassia. C'est-à-dire qu'on va toujours garder la main au fond et si un jour on a envie de détruire ces machines parce qu'elles seront... où elle pourrait être très menaçante, on pourra encore le faire.
Parce qu'il faut, je crois, préciser les choses. Lorsqu'on parle d'intelligence des machines, c'est nous qui attribuons aux machines de l'intelligence. Elles n'en ont pas spontanément, d'une certaine façon. Alors, est-ce qu'on peut défaire ce que l'on a fait ? Alors ça, c'est une autre question, parce qu'il se peut que l'emprise que les machines prennent sur les hommes dans la société fasse que, en voulant... les arrêter, eh ben on désorganise totalement la société.
Ouais.
Aujourd'hui, par exemple, vous voyez que les hôpitaux...
Le fait d'être connecté, tout
les
simplement.
Banques, voilà, tout ça joue un rôle central et donc il y a des risques et donc il y a des vrais dangers liés au développement
absolument.
De la
Alors ça, c'est toutes les idées justement qui découlent de cette singularité technologique. On peut d'abord expliquer en quelques mots de quoi il s'agit quand même, hein, parce que ça, c'est très...
Tout à fait. Alors la singularité, le terme lui-même vient des mathématiques. C'est une fonction qui a à un moment donné un point critique. Par exemple, la fonction qui a x associé 1 sur x, hein, peut-être les auditeurs se souviennent de leur cours de collège, eh ben, au voisinage de 0, elle n'est pas définie. Juste avant, c'est moins l'infini, juste après, c'est plus l'infini. C'est une singularité. Alors, il y a beaucoup d'autres singularités qui ont été explorées par les mathématiciens, les physiciens aussi se sont intéressés aux singularités. Et puis, ensuite, les spécialistes de technologie disent que les machines qui deviennent ultra rapides, à un moment donné, elles seront plus rapides que le cerveau humain, et donc il y aura un moment de doute, un point critique,
ouais,
puisque l'emprise que l'humanité aurait sur la nature, eh ben, serait plus aussi puissante, puisque les machines auront plus, ouais, de pouvoir, plus d'intelligence, et elles prendront le pouvoir à leur place.
Donc, mais c'est ça l'hypothèse. Cette prophétie, elle voit les choses à court terme, parce que là on parle de 2045.
Voilà, c'est
ce basculement. Hein,
tout à fait. Alors il y a effectivement différentes hypothèses. C'est de la science-fiction, hein. Donc ouais, ça repose sur des calculs, c'est un scénario. Alors est-ce que tous les scénarios anticipateurs sont faux? Non, mais il faut les confronter les uns aux autres. Or ça, c'est un scénario qui n'est pas confronté à d'autres. Il y a plein d'autres hypothèses. Uh-huh. Donc on ne peut pas dire en tant que scientifique c'est impossible, mais enfin, il y a quand même plein d'autres hypothèses qui sont tout à fait...
Ouais. Enfin, il vous fascine quand même ce scénario, puisque vous en faites le titre de votre ouvrage.
Alors,
Jean-Gabriel Galassia.
Il me fascine, et en même temps, la raison pour laquelle j'ai fait cet ouvrage, c'est que je crois qu'en tant que scientifique, il nous appartient de répondre et de dire qu'il y a des choses qui sont très improbable, hein, et que ces déclarations tonitruantes de personnes qui ont une forte autorité dans la société, mmh, ben, elles reposent sur des prémisses qui sont fausses. Et c'est ça que j'ai essayé de démonter, ouais, de dire que les arguments qu'ils emploient, eux, ne sont
c'est
pas
ça
valides,
voilà,
du point de vue scientifique.
Ça, c'est vraiment la racine de votre ouvrage.
C'est la racine
cette
de
démonstration
de
que vous faites.
Et je l'ai fait parce que des étudiants, un certain nombre de gens, m'ont posé la question. Puis après, ouais, on peut aller plus loin et se demander, mais pourquoi est-ce que des gens aussi importants que ça, hein, racontent,
oui,
une,
oui,
telle,
oui,
fable,
hein,
mais ça,
parce qu'on a des philosophes, des ingénieurs,
voilà,
des roboticiens, c'est ce qu'on expliquait. Alors, Laurence de Villers, vous n'êtes pas du côté, justement, de cette prophétie. Hein. 2045, ça vous paraît complètement stupide ou pas, au fond?
Mais disons que je trouve que c'est abusé d'aller dans cette histoire de fable de la singularité. Parce qu'en fait, si on regarde le climat, par exemple, je prends un autre domaine.
Le climat.
Mm-hmm. Eh bien, on fait des prédictions, c'est-à-dire qu'on fait des modèles et on regarde comment les modèles, finalement, réagissent en fonction de les événements qui se passent. Là, je vois jamais cela. Dans tout cet aspect du transhumanisme, de la singularité, mmh, ce sont des gens qui prophétient des...
Donc c'est de l'idéologie
choses.
Pure.
C'est de l'idéologie. Et derrière, scientifiquement, il n'y a pas vraiment, comme le disait Jean-Gabriel, il n'y a pas vraiment...
de recherche. Oui, c'est ça. Ce n'est pas soutenu par de la recherche.
C'est soutenu par une recherche, mais qui est science-fiction. C'est incroyable. C'est-à-dire que d'habitude, c'est la science qui donne des idées à la science-fiction. Là, on a l'impression que c'est finalement... le transhumanisme se nourrit de la science-fiction. Voilà, donc c'est très gênant, je trouve, qu'il n'y ait pas du tout de rapport à l'évaluation, à la modélisation, c'est ce qui manque. Et
ouais,
moi, la première chose que je dirais à ces gens-là en face, c'est soyez crédibles, donc commencez par modéliser. Alors 2045, c'est très loin, mais à deux ans...
C'est pas si loin que ça, 2045.
Non, mais attendez, quand on est scientifique, on fait aussi des choses petit à petit, c'est-à-dire qu'on peut très bien se donner une échéance plus proche, avec des hypothèses fondatrices comme celles qu'ils essaient de donner,
ouais,
et puis vérifier avec ce qui va se passer dans deux ans, et à ce moment-là, peut-être seront-ils plus crédibles.
C'est quand même dans moins de 30 ans, Jean-Gabriel Galassia. Alors, qu'est-ce que ça dit d'ailleurs, ce mythe quasiment, on a envie de l'appeler comme ça, de la singularité sur l'humain? Parce que devient l'humain si justement la machine prend le dessus? Est-ce que du fait de notre hyperconnexion, nous devenons nous-mêmes des machines? Qu'est-ce qu'on devient au fond?
Alors il y a deux hypothèses. La première, ce serait que l'humain disparaisse, parce que les machines prendront le pouvoir,
purement et simplement,
hostile, purement et simplement. C'est un peu ce que disent des gens comme Elon Musk ou comme Stephen Hawking lorsqu'ils nous disent que c'est le plus grand danger existentiel pour l'humanité.
Ouais. Hein,
ça veut dire fin de l'existence humaine. Il y en a d'autres qui disent non, parce qu'on pourrait tirer avantage de ça et se greffer sur les machines. Alors, est-ce qu'on sera toujours des hommes? Je ne sais pas, on sera des espèces de cyborgs et on téléchargera, donc ça veut dire qu'ils ont une idée de la conscience un peu étrange, on téléchargera notre conscience,
ouais,
un peu comme un logiciel, sur ces machines. Alors, bien sûr, à ce moment-là, on deviendrait immortel. Enfin, en tout cas, peut-être pas immortel, mais on vivrait autant que les machines vivent.
Ouais. Mais est-ce qu'on sera humain pour autant
dans
ces conditions-là?
Alors, c'est bizarre. Alors, on sera sur ces machines et on sera des espèces d'âmes sans corps, errantes. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'étant désincarnés, on sera un peu des exoplasmes, hein, ça sera difficile. Alors, il y a un milliardaire russe qui a développé une société, alors vous pouvez faire sur Internet, 2045.com, et là, il vous propose de commencer à construire votre avatar pour dans 30 ans, moins de 30 ans,
pouvoir
45.
Pouvoir télécharger, au fond,
voilà,
cette
donc vous pouvez
nouvelle
y aller,
conscience.
Vous pouvez commencer à construire votre avatar.
Moyennant quelques dollars.
Moyennant quand même quelques finances,
évidemment.
Je crois,
oui. Et si le monde allait mieux avec les machines après la singularité, nous dit Polo dans son message. Votre réponse à tous les deux.
Alors moi c'est très simple. Est-ce que le monde ira mieux? Je ne sais pas. Mais en revanche, je pense que les hommes iront certainement beaucoup moins bien après la singularité, parce que ça veut dire quand même que l'homme lui-même n'existera pas de la même façon. Mais surtout, ce que nous disent ces fables, c'est que il y a une automatisation, il y a une autodétermination de la technologie, il y a une autonomie des machines, et donc que la liberté disparaîtra. Et je crois qu'il faut réaffirmer la liberté humaine parce qu'elle subsiste.
Laurence de Villers.
Oui, puis je crois qu'il faut réaffirmer que l'humain existe parce qu'il a un cerveau et un corps. Hein, donc c'est un ensemble. On comprend les choses à travers aussi sa sensibilité. Mm-hmm. Et donc la recopier sur une machine qui, elle, n'a pas du tout ce fonctionnement en continu, hein, c'est que du discret, je me doute que ce sera un pâle effort, enfin une pâle reproduction de l'humain.
Ouais. Roger nous dit, de toute façon, l'humanité n'aura pas besoin de robots pour s'auto-détruire. A priori, on a d'autres armes pour ça, hein, si tant est qu'on ait envie de le faire. Mais enfin bon, c'est vrai qu'on a un arsenal nucléaire, par exemple, qui pourrait nous détruire bien avant les robots, peut-être. Existe-t-il un ou des critères de seuil pour permettre l'émergence d'une conscience? Demande Benoît sur franceinter.fr, Laurence de Villers.
Alors, la conscience, c'est aussi un concept assez complexe, hein, puisqu'on a une conscience morale, une conscience de soi, je vais prendre deux extrêmes. Donner à un robot une conscience de lui-même par le fait de lui donner une histoire, hein, qu'il enregistre tout ce qu'il fait, toutes ses interactions avec quelqu'un, voire lui donner conscience de son corps de robot, donc d'une certaine distance à avoir avec les autres, un fonctionnement qui est lié à des codes dans la société, ça, c'est possible. Mais ça ne veut pas du tout dire que le robot aura conscience de lui, ni que quelque chose va être généré à partir de là, qui lui donnerait des pensées autonomes. Ce ne serait que, en fait, des programmes donnés par des informaticiens.
Jean-Gabriel Ganassia, alors, sur le thème de la conscience, passionnant.
C'est passionnant, et les machines pour nous aider à comprendre la conscience, en liaison avec des spécialistes de neurosciences. Et je suis tout à fait d'accord avec Laurence. Ce terme de conscience est multipolysémique, hein, il désigne beaucoup de choses. Il y a des aspects qu'on peut essayer de reproduire sur une machine, il y a d'autres aspects qui sont beaucoup plus difficiles à reproduire, et en particulier ce qui est lié à la liberté, ce qui est lié à la volonté, parce qu'aujourd'hui, les machines exécutent des actions en fonction de buts qui leur ont été fournis de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas nous surprendre, mais ça veut dire que ce sont quand même des hommes qui leur ont mis les objectifs, les fonctions d'intérêt, par exemple, qui leur permettent de choisir leurs actions.
Claude nous dit, tout dépend de la définition de l'intelligence. Si l'intelligence est la capacité à s'adapter, la machine n'a que l'adaptation fournie par son programme, c'est-à-dire quasiment zéro, je crois que vous êtes d'accord là-dessus. Et puis les capacités du cerveau, dit Claude, étant liées à la densité de connexion des neurones, je crois savoir que l'on surveiller Internet pour y déceler des traces d'auto-adaptation. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai ou pas?
On peut trouver des mécanismes comme ça, mais c'est très très bas niveau.
Ce serait quoi l'auto-adaptation exactement, Jean-Gabriel Ganassia? Alors, c'est la capacité d'inventer de nouveaux concepts?
Ça recouvre plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on change l'Internet et qu'on ait un Internet dans lequel les liaisons se reconfigurent dynamiquement, ça fait partie des projets d'Internet du futur. Donc là, il n'y a pas de problème. Que ce soit la capacité à inventer du nouveau, alors là peut-être, mais justement, ce sont des choses qui sont extrêmement délicates. Il y a eu des travaux, bien sûr, qui ont été faits là-dessus, sur l'invention de descripteurs, mais ça reste extrêmement ténu. Et en tout cas, ça ne se fait pas de façon aussi autonome que l'homme, qui est capable d'inventer de nouvelles théories. Vous savez que l'apprentissage, lorsque ça passe par l'invention, par exemple, les révolutions scientifiques, ce sont des bouleversements conceptuels. Et c'est ça qu'on a du mal à faire par une machine.
Bon, on peut dormir sur nos deux oreilles en attendant?
Alors non, je ne crois pas.
Ah zut!
Alors justement...
Je voulais terminer pas. Avec
voilà. Non, pas avec du tout.
De l'optimisme.
Parce que je crois que l'intelligence artificielle transforme considérablement la vie de tous les jours, et que cette peur qu'on nous fait, le risque, c'est non seulement qu'elle soit fausse, mais au fond, ce serait pas très grave, c'est une fable, hein, on vit de fables, mais c'est que cette grande peur masque les vrais dangers. Ouais. Les vrais dangers, ils sont liés au nouveau pouvoir qui se constitue aujourd'hui avec les grands acteurs de l'Internet.
Bon, et d'où ce plan de bataille de la France sur l'intelligence artificielle avec François Hollande, qui a justement, auquel vous avez remis un rapport avec un groupe de réflexion la semaine dernière. On n'a pas le temps d'en parler, malheureusement, Laurence de Villers, mais ce sera un sujet qui sera abondamment commenté dans les mois qui viennent, j'en suis sûr. Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité, c'est chez Plomb, Laurence de Villers, et Jean-Gabriel Ganassia, le mythe de la singularité, c'est aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Et Pierre est avec nous, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui de choix.
Oui Mathieu, il ne vous aura pas échappé qu'il va y avoir une élection présidentielle et que l'heure du choix arrive.
Certes.
Alors que beaucoup encore s'interrogent sur le bulletin qu'ils glisseront dans l'urne, voyons comment un modeste insecte, la mouche verte, à la fois nécrophage et coprophage, gère son principal dilemme, à savoir choisir entre la charogne et l'étron. N'y voyez là aucun rapport avec certains candidats. Pour la Lucilie soyeuse, c'est le nom de cette mouche, excréments et cadavres sont tous deux sources de protéines, mais les seconds présentent un intérêt supplémentaire car les femelles y déposent leurs œufs. Les larves se gaveront des chairs mortes et j'espère que nos auditeurs ont fini de manger.
Moi aussi.
Dans une étude publiée en 2016, une équipe canadienne a comparé l'attractivité odorante des deux plats sur des mouches femelles en fonction de leur état, vierge ou prête à pondre.
C'est une délicieuse étude, dis donc. Hein.
Délicieuse, c'est le mot, et je vais détailler la partie matérielle et méthode de l'article, vraiment délectable, où les auteurs expliquent comment ils se sont procurés leurs matériaux de base. On y apprend ainsi que pour le côté cadavre, les rats et les souris ont été capturés par le département des soins aux animaux de l'université et ces rongeurs ont ensuite été euthanasiés au CE2 avant que l'on pratique sur eux une incision post-mortem pour simuler la mort d'un animal blessé. Pour ce qui est des excréments, l'étude dit qu'ils proviennent de deux chiens en bonne santé, âgés de 5 et 9 ans. Leur production a été collectée tous les jours, quelle joie d'être chercheur.
Oui, oui.
Les crottes du duo canin étaient mélangées et, je cite, bien homogénéisées avant d'être testées sur les Lucilies. Quant au tri des mouches, la tâche était simple. Celles qui étaient âgées de 3 à 5 jours n'avaient pas encore copulé, tandis que celles ayant de 10 à 12 jours étaient prêtes à pondre, ça va vite chez les mouches.
C'est vrai. Et qu'est-ce que ça a donné alors tout ça, Pierre ?
Les expériences ont montré que l'état physiologique de ces dames influait grandement sur leurs préférences alimentaires. Les jeunes ne faisaient pas de différence entre les deux sources de protéines, tandis que les plus âgés ne choisissaient que les cadavres, à la fois self-service pour elles et pour leur progéniture. Les chercheurs ont déterminé que l'indol, un composé organique volatile typique des matières fécales, se comportait comme un repoussoir sur les femelles gravides, alors qu'il ne dérangeait pas les plus jeunes. C'est aussi parce que les chairs putrides émettent de l'indol que les mouches prêtes à pondre les évitent et préfèrent déposer leurs œufs dans des cadavres frais. Voilà donc comment la Lucilie soyeuse choisit entre la charogne et l'étron en songeant à l'avenir de ses petits. Peut-être cet exemple inspirera-t-il ceux qui hésitent encore à l'approche de cette présidentielle 2017.
On n'en doute pas. On retrouve en tout cas cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu du supplément ?
Alors cette semaine, le grand dossier est consacré au haut et au bas de la science russe qui reste en pointe dans certains domaines mais qui a complètement décroché de la compétition internationale dans d'autres.
Et c'est donc dans Le Monde, en kiosque dès cet après-midi. Merci beaucoup Pierre et à la semaine prochaine.